quand la croisière ne s'amuse plus. Un monocoque de 18 mètres s'est échoué au large de Belep. Une partie des passagers a été évacuée par hélicoptère. Le reste devra rester sur place jusqu'à demain matin, le temps de l'intervention des secours en mer. Quand l'azote liquide de la SLN permet de conserver les semences et embryons des cheptels locaux, un partenariat pour les trois prochaines années vient d'être établi entre la société Le Nickel et les Upra de Calédonie. Six jeunes Calédoniens se sont engagés aujourd'hui au sein de la Marine nationale et ce pour 2 ans. Sous le commandement d'instructeurs, ils vont désormais se préparer au métier pendant 6 semaines. L'actualité dans le Pacifique, c'est la canonisation du premier saint mélanésien, mais aussi ce bijoutier australien arrêté pour avoir vendu des bijoux de contrefaçon. Le cheval, c'est trop génial et il sera mis à l'honneur dès ce vendredi sur le territoire à l'occasion de la 12e édition de la Semaine du Cheval. Nous en avons parlé ce midi dans notre Mac des Sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cette tentative de sauvetage ce matin du navire de plongée sous-marine Enjoy à l'est de Belep, échoué hier soir à 19h sur le récif après des dégâts sur la coque à l'avant du bateau. Les 11 passagers du monocoque sont restés à bord toute la nuit. En début d'après-midi, 7 d'entre eux ont été hélitreuillés jusqu'à Koumak. Les précisions de l'administrateur des affaires maritimes et directeur par intérim du COSENSE, Martin Blanchard.
Ce navire n'était plus en capacité de reprendre la mer, il s'est échoué sur un récif et donc un remorqueur a été rapidement engagé par l'armateur pour faire une tentative de déséchouage et donc une première tentative avant l'arrivée du remorqueur a eu lieu ce matin vers 6h. Elle n'a malheureusement pas pu permettre de déséchouer le navire et donc après un nouveau point fait avec le bord, on a constaté que l'opération de déséchouage prévue initialement donc ce soir était assez dangereuse et qu'il était préférable d'évacuer un maximum de personnes avant l'opération. Et au vu de la position actuelle du navire qui se retrouve vraiment au milieu des récifs, il n'a pas été possible d'envisager une évacuation par moyen maritime. Donc en début d'après-midi, nous avons procédé à l'évacuation des passagers par un hélicoptère des forces armées en Nouvelle-Calédonie, l'hélicoptère Puma, qui a évacué 7 personnes sur Koumak.
Une nouvelle opération de déséchouage est donc reprogrammée demain matin avec les 4 derniers passagers à bord du navire. Le navire Enjoy, qui était parti de Koumak samedi dernier et devait faire le tour du Grand Nord jusqu'au 26 octobre prochain. La circulation rétablie dans le Nord. Un camion transportant du gravier s'était retrouvé enflammé au milieu de la RT1 à Pointe-Boute ce matin à la suite d'un dysfonctionnement technique. La circulation après la ligne droite des Gaillacs en direction de Nouméa a un temps été coupé pour permettre l'intervention des pompiers. Le camion a pu être évacué il y a un peu plus d'une heure. Les voitures peuvent maintenant circuler normalement. Et la météo est toujours instable sur le territoire, mais le beau temps devrait revenir d'ici vendredi. L'axe orageux se déplace vers l'est et l'extrême sud de la Nouvelle-Calédonie. 3 communes sont toujours placées en vigilance orange, forte pluie et orage. Le Mont-Dore, Yaté et Thio. Le territoire est en fait situé dans une zone dépressionnaire qui s'étend du nord du Vanuatu au sud de la Nouvelle-Calédonie, bloquée par un anticyclone. Claude Van Royan, prévisionniste à Météo France Nouvelle-Calédonie.
Donc cet axe dépressionnaire est bloqué par la présence d'un anticyclone qui se situe au nord-est de la Nouvelle-Zélande et qui bloque le décalage qui généralement se fait en 24-36 heures de ces zones actives. Et la particularité, c'est que là, la situation, elle devrait être bloquée jusqu'en milieu de semaine. Donc on s'attend à avoir des situations orageuses avec temporairement des accalmies, mais une situation qui va rester instable jusqu'à mercredi à peu près, avec un décalage de la zone instable et orageuse plutôt vers les Loyautés, voire même à l'est des Loyautés.
Après une accalmie cet après-midi, de nouvelles averses sont prévues en début de soirée. La vigilance orange pourrait être levée à 23h. La moitié sud de la Grande Terre reste en vigilance jaune forte pluie, avec des cumuls pouvant aller de 30 à 50 mm en quelques heures. Dans le reste de l'actualité, la Nouvelle-Calédonie sera encore très présente cette semaine à l'Assemblée nationale, Elisabeth Noir.
Oui, c'est cette nuit pour nous que la Commission des lois examine la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet 2025 et sa mise en œuvre. C'est l'intitulé exact de la loi qui reporte les élections provinciales à juin 2026. Le texte a été adopté à une large majorité, vous le savez, la semaine dernière par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée devant l'Assemblée. C'est le député LR Philippe Gosselin qui en est le rapporteur. 23 amendements ont d'ores et déjà été déposés et ce sont tous des amendements de retrait. 6 Emmanuel Chibaou pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, 14 amendements ont été déposés par Bastien Lachaud pour la France insoumise et 3 amendements sont défendus par le groupe écologiste. Après cet examen en commission, le texte sera examiné en séance publique. Ce sera mercredi le 22 octobre dans la nuit pour nous. On saura donc jeudi matin si la loi est adoptée et si elle peut être promulguée avant le 2 novembre pour permettre le report des élections provinciales. Faute de quoi, vous le savez, le scrutin devrait être organisé avant la fin du mois de novembre et avec un corps électoral gelé. Et on sait que le scrutin sera très serré au Palais Bourbon. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a un autre rendez-vous demain mardi. La délégation aux Outre-mer a en effet prévu d'auditionner l'ancien ministre des Outre-mer, Manuel Valls, sur la situation en Nouvelle-Calédonie.
Et également, Elisabeth, Thierry Santa n'a pas démissionné du gouvernement malgré des rumeurs récurrentes.
On sait depuis des semaines que le membre du gouvernement en charge notamment du budget a décidé de quitter ses fonctions de membre du gouvernement, mais cela ne sera fait qu'au début du mois de novembre. Pour l'heure, sa démission n'est pas effective, même si elle le sera dans quelques jours. Il n'a pas signé de papier pour l'instant, il n'a pas démissionné. Thierry Santa s'était engagé dans le 18e gouvernement dans la perspective où l'exécutif avait une durée de vie de quelques mois. Il devait être renouvelé après les élections provinciales qui étaient prévues fin novembre. Le calendrier devant évoluer avec le report attendu des élections provinciales, il a décidé de se retirer pour des raisons personnelles et professionnelles au moment où il l'avait prévu. Quand Thierry Santa aura démissionné, c'est le suivant de liste qui lui succédera au gouvernement, et en l'occurrence la suivante de liste, puisqu'il s'agit de Naya Wateu, élue des Républicains calédoniens. Cela provoquera également quelques changements au sein du Congrès et de la province sud, puisque Thierry Santa démissionnera de tous ses mandats, mais cela ne remettra pas en cause les équilibres actuels.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Approuvez-vous l'initiative des fils de Nicolas Sarkozy qui invite les soutiens de leur père à manifester leur amitié mardi, jour de l'incarcération de l'ancien président de la République à la prison de la Santé. Si vous approuvez cette initiative, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Notez maintenant ces deux rendez-vous d'antenne. Depuis le 1er octobre, la DSCGR a activé sa cellule Feu de forêt. Les dernières technologies sont déployées pour aider les pompiers. Nous en parlerons dans notre magazine Citoyen demain. Nous recevrons notamment le capitaine Alexandre Rossignol, officier référent du Centre opérationnel de gestion de crise et officier de communication. Le lieutenant Karil Payandi, officier référent de la cellule Feu de forêt. Et Yannick Bin, chef de l'unité des télépilotes de drones de la sécurité civile. Pour tout savoir concernant la lutte contre les feux de forêt, rendez-vous donc demain midi dans notre magazine Citoyen. Et c'est Jean-Luc Douillard qui sera demain notre invité du matin. Psychologue clinicien, il est le cofondateur de l'APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance psychologique aiguë. Il a déjà effectué plusieurs déplacements en Nouvelle-Calédonie et le contexte économique catastrophique consécutif aux émeutes justifie sa présence. Demain et mercredi, il tiendra des réunions à la CCI pour évoquer à la fois la formation aux procédures collectives et la formation sentinelle sur les alertes de la crise suicidaire. Mercredi soir à 18h, il tiendra une conférence à l'UNC sur le thème de la prévention du suicide chez les jeunes, des thèmes très sensibles que nous aborderons avec lui demain matin à partir de 7h30. Il est 17h54, première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Info soir, Léana Colombo.
La Chambre territoriale des comptes dresse le bilan du suivi des recommandations et des rappels au droit qu'elle émet à destination des organismes qu'elle a audités. En 2023, la CTC a émis 10 rappels au droit et 36 recommandations. Elle souligne que le taux de mise en œuvre partielle ou totale des recommandations s'élève à 57%, un taux satisfaisant selon la CTC car certaines recommandations peuvent être complexes et nécessitent dans certains cas une coordination entre le gouvernement et le Congrès. Malgré tout, la Chambre souligne que des marges de progrès sont possibles. Elle regrette enfin que les recommandations qu'elle a émises en matière de lutte contre la fraude sanitaire et fiscale n'ont pas été mises en œuvre. Et puis la FPLS continue de dénoncer ce qu'elle qualifie de dysfonctionnement de l'OCEAM, cet outil de pilotage sanitaire. Si les représentants des professions de santé ont été associés à sa mise en place en 2022, aucune rencontre officielle n'a eu lieu depuis, selon la FPLS. Dans un nouveau courrier adressé à la DAS, à la CAFAT et au gouvernement, elle estime que le fonctionnement actuel rompt le contrat de confiance initial et le transforme en instrument technocratique. La Fédération des professionnels de santé demande la publication du calendrier des comptes rendus des réunions de l'OCEAM, la transparence des données utilisées et le retour immédiat à son principe fondateur, c'est-à-dire un outil de concertation et non de décision unilatérale.
RRB, il est 17h56.
60 litres d'azote liquide par semaine, c'est ce que les unités de promotion de race des animaux d'élevage pourront recevoir pour améliorer le patrimoine génétique du cheptel local. Un partenariat a été signé entre la SLN et les Uprins de Calédonie, Charlotte Coulson.
Le lien entre la société Le Nickel, l'azote liquide et la filière agricole de Nouvelle-Calédonie n'est peut-être pas évident. Et pourtant, ce partenariat existe depuis plus de 30 ans maintenant. Si l'on décortique, d'un côté, les Uprins ont pour rôle d'améliorer le patrimoine génétique du cheptel local. Pour ce faire, elle collecte les semences d'animaux performants. Un cheval ayant participé aux Jeux Olympiques, par exemple, les unités en prélèvent sur le territoire ou bien à l'étranger pour éviter les risques de consanguinité au niveau local. Et pour conserver les semences et les embryons, elles ont besoin d'azote liquide, comme l'explique Alexia Michalet, la directrice de l'UPRA Calédonie Sélection.
Nos semences des meilleurs reproducteurs et des embryons sont conservées dans des paillettes, des petits tubes en plastique. Et ensuite, on les plonge dans l'azote liquide à moins 196 degrés pour pouvoir les conserver sur une durée indéterminée. On a des besoins hebdomadaires d'environ 60 litres. Le fait de ravoir de l'azote, parce que justement pendant cette période de crise, on avait essayé de diminuer les stocks pour limiter notre consommation d'azote. Et là, le fait de ravoir de l'azote de la SLM, on va pouvoir retourner dans un fonctionnement normal.
60 litres par semaine, c'est un besoin en azote liquide important. À 1000 francs le litre, la facture peut très vite grimper. Mais cela tombe bien car la SLN en produit plus qu'elle n'en a besoin. Arnaud D'Arcangelo est responsable du département utilité à la SLN.
Comme c'est une unité cryogénique, donc qui fonctionne à des températures de moins 180 à moins 200 degrés, donc les fluctuations de température sont préjudiciables pour sa durée de vie. Donc on essaye de la maintenir au maximum en service. Et tout ce qu'on a en surplus, on le donne aux UPRA ou à l'IAC qui permettent de maintenir notre unité en fonctionnement et d'éviter de l'arrêter constamment lorsque nos stocks sont pleins. La SLN, on sait, a une image de gros industriel, mais aussi elle peut montrer qu'elle aide beaucoup le développement de la Calédonie par d'autres biais comme celui-ci par exemple.
La signature de cette convention permet de sécuriser le partenariat pour les 3 années à venir. Le don d'azote de la SLN aux UPRA devrait reprendre la semaine prochaine.
Le Forum de l'eau s'ouvre demain. Pendant 2 jours, le gouvernement réunira les acteurs de l'eau en atelier sur le campus de Bako à Koné. Le même événement sera ensuite organisé à l'UNC à Nouméa la semaine suivante. Nicolas Legrand.
Oui, avec une restitution des travaux qui aura lieu le 6 novembre au Centre culturel Chibaou. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir écrire les arrêtés d'application de cette fameuse loi du pays sur le domaine public de l'eau et la protection de la ressource qui a été adoptée adoptée en juin dernier par le Congrès. Ils vont donc travailler sur sa mise en œuvre. Et en parallèle, les Calédoniens sont aussi invités à participer à une consultation publique sur le site eau.nc. Écoutez, Jérémy Katidjomonier, il est le membre du gouvernement en charge de la politique de l'eau.
On a voulu, avec le président Ponga, avoir la consultation la plus large possible, donc avec une consultation du public qui est ouverte déjà depuis plusieurs jours, qui permet à tous les Calédoniens de pouvoir répondre. Et pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, souhaitent rentrer dans des discussions, on a mis justement profiter de ce forum de l'eau pour mettre en place ces ateliers qui permettront des échanges, qui permettront aussi une meilleure information de tous les Calédoniens pour mettre en œuvre tous ces outils qui sont mis en place et aussi les informer que des fonds sont disponibles aujourd'hui grâce au fonds de l'eau pour accompagner ces acteurs. On voit aujourd'hui que les inscriptions aux ateliers de Baco demain ont un grand succès. On est très heureux de voir le succès que ça a, puisque c'est un sujet, l'eau, essentiel, puisque c'est vital pour chacun des Calédoniens. Mais pour les agriculteurs, c'est essentiel pour leur production, parce qu'il peut y avoir production sans eau. Et aujourd'hui, on voit aussi une interface forte entre la mine et les cours d'eau. Et en termes d'acceptabilité, les mineurs se sont vraiment saisis du sujet.
Et ce forum de l'eau est mis en place par la DAVAR. Geoffroy Vautling est le chef du service de l'eau à la DAVAR.
On va devoir passer aujourd'hui des principes de la loi à l'application. On va cadrer avec les acteurs de l'eau le curseur dans le niveau de mise en œuvre de ce texte. Donc on a fait un projet qui est en ligne aujourd'hui. Les acteurs de l'eau sont invités à travailler dans trois ateliers thématiques. Prélèvement et rejet d'une part, aménagement et travaux d'autre part, et enfin servitude et protection de la ressource en eau d'autre part. Ce sont les trois grands thèmes du projet d'application de cette loi de pays. Ce sont des ateliers quand même à vocation très technique, on parle de réglementaire. Donc tout le monde est bienvenu, on va essayer de faire une animation ludique sur le thème de cette loi. On va essayer de simuler en fait l'application de cette loi avec des acteurs de l'eau sur des projets bien concrets pour se rendre compte de ce qui coince éventuellement et de ce qui peut aider à faire passer, on va dire, ce texte de la façon la plus opérationnelle possible.
Et vous pouvez retrouver évidemment cette consultation publique, mais aussi les inscriptions aux ateliers sur le site eau.nc.
De nouvelles recrues au sein de la Marine nationale. 6 jeunes Calédoniens ont choisi de débuter leur vie professionnelle au sein de la Marine nationale. C'est aujourd'hui qu'ils ont intégré la base navale de Nouméa, comme nous l'explique le capitaine de vaisseau Julien Faure, commandant de la base navale Chalex.
On a eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir 6 jeunes recrues qui rejoignent donc les rangs de la Marine nationale aujourd'hui en signant leur contrat d'engagement, qui s'engagent pour une durée de 2 ans sur un contrat qu'on appelle un contrat de recrutement local, c'est-à-dire des gens qui ont vocation à ne servir qu'en Nouvelle-Calédonie, pas que sur des unités qui sont basées en Nouvelle-Calédonie, donc la base navale, les bateaux principalement, et qui, au terme de ces 2 années, soit repartiront dans la vie civile, soit parce que l'expérience leur a plu, puis ils ont décidé de poursuivre l'aventure au sein de la Marine nationale, et auquel cas ils signeront un autre type de contrat. Il y a toujours un peu d'émotion de voir quelqu'un qui fait ses premiers pas, et on se revoit un peu, nous, à leur place, quand on a signé ce contrat, avec un peu, enfin, vous voyez, des jeunes qui étaient impressionnés. Dans 6 semaines, je vais les retrouver pour la cérémonie de clôture. Je suis certain que ces marins un peu timides, un peu stressés, qu'on a vus aujourd'hui, cet après-midi, signer leur contrat, je les reverrai dans 6 semaines en marins épanouis et fiers de rejoindre leurs unités.
Ces jeunes marins âgés de 18 à 25 ans mettent la Nouvelle-Calédonie à l'honneur et ils ont signé leurs engagements dans l'amphithéâtre de la base navale de Nouméa. Écoutez leur réaction.
Bien, j'ai voulu découvrir de nouveaux horizons avec de nouvelles façons d'apprendre dans la marine. Et ce qui m'a poussé, c'est les différentes activités qu'on va couvrir dans la marine, ce qui va pouvoir apprendre plusieurs métiers, comme par exemple le pompier, cuisinier, dans ce que j'ai choisi. On est en formation pendant 6 semaines, et pendant 6 semaines, on va faire des cours sur les différents aspects de la marine, ainsi qu'on va faire beaucoup de sports.
J'ai choisi OPNAV, c'est un contrat de 2 ans, comme un stage passerelle, quoi. Comme je suis pas sûre de vouloir faire ça, du coup je peux tourner dans le bateau. C'est apprendre à piloter le bateau, apprendre à faire des manœuvres, ça fait plaisir, ils sont contents pour voir autre chose aussi.
Avec des formations adaptées, ils apprendront le métier de militaire et de marin sous les directives de leurs instructeurs et ce, pendant 6 semaines. En bref, plusieurs auditeurs nous ont alertés sur une coupure de courant sur une partie de Nouméa et du Grand Nouméa en fin d'après-midi. Enercal parle d'un défaut technique non identifié. Ses équipes se sont mobilisées. A priori, le courant est revenu partout. Et c'est bientôt la fin de la 2G sur le territoire, un réseau qui ne ne vous dit peut-être rien, car il est aujourd'hui obsolète, Charlotte Coulson.
S'il y a 25 ans, cette technologie était innovante, aujourd'hui les réseaux 3G et 4G offrent un débit Internet bien plus performant sur le territoire. L'OPT informe donc les usagers qu'elle y mettra un terme définitif au 31 décembre. Cela permettra de renforcer les performances du réseau mobile et d'accompagner la transition numérique du territoire, selon l'OPT. L'Office des postes et télécommunications invite tous les propriétaires de smartphones 2G only à remplacer leur téléphone s'ils veulent profiter d'Internet. Attention, car certaines cartes SIM sont également à changer. Près de 2000 utilisateurs ont une carte SIM dite 2G qui ne permettra plus d'accéder au service au 1er janvier 2026. Les bonnes cartes SIM, c'est-à-dire celles qui sont compatibles avec le réseau 3G ou 4G, portent la mention USIM. L'échange se fera gratuitement. Pour cela, il faut se rendre avec une pièce d'identité dans une agence OPT ou bien une boutique partenaire.
L'actualité dans le Pacifique. Parmi les nouveaux saints, Peter Thorot est devenu le premier saint de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était un catéchiste dévoué et un défenseur du mariage chrétien. Né en 1912, il avait, malgré les dangers, poursuivi son ministère en secret pendant l'occupation japonaise de la Seconde Guerre mondiale. Une figure pour l'Océanie, explique le diacre Nisier Filitoga, rattaché à l'église Saint-Jean-Baptiste à Nouméa.
C'est en 1942 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était occupée à l'époque par les Japonais. Les missionnaires sont emprisonnés dans les camps de concentration. Et puis le culte catholique était interdit. Les églises fermées et Peter Thorot entre en résistance en organisant des offices le dimanche sans prêtre. Et il meurt en prison exécuté lors d'une injection létale de poison en 1945. Et fait partie des 10 saints et bienheureux patrons des Journées mondiales de la jeunesse. Canonisé parce qu'on reconnaît en lui sa grande dévotion déjà pour l'Eucharistie. Il allait porter la Sainte Communion dans les tribus éloignées de son lieu d'habitation. Et en plus parce qu'il était mort martyrisé dans le camp de concentration. Les Japonais, lors de la Seconde Guerre mondiale, lui ont imposé la polygamie. Une manière de faire disparaître la religion chrétienne. Et il s'est opposé. Jusqu'au bout, il est allé jusqu'au bout, en affirmant bien sûr sa foi.
Arrêté pour s'être opposé à la polygamie que voulaient réinstaurer les Japonais, il a été emprisonné et finalement martyrisé par empoisonnement en 1945. Peter Thorot a été béatifié en 1995 par Jean-Paul II avant d'être canonisé ce 19 octobre par le pape Léon XIV. Ces miracles ont été reconnus en Papouasie mais aussi aux îles Salomon et jusqu'en Australie, mais en raison de la grande difficulté d'obtenir la documentation scientifique nécessaire pour prouver ses miracles dans les hôpitaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, son procès de canonisation a été exempté de la preuve des miracles. En Australie, un bijoutier de la Gold Coast a été arrêté. Il a vendu des bijoux haut de gamme, mais de contrefaçon. Et c'est le récit de Jean-Pierre Zajac.
Ce bijoutier, visiblement peu scrupuleux, avait exposé des contrefaçons de bijoux Cartier Van Cleef & Arpels, qu'il avait fait passer pour authentique. La vente de ces faux avait atteint une somme équivalente à 100 000 dollars australiens, soit environ 6 666 000 de nos francs. Arrêté par la police fédérale avec le concours de celle du Queensland, il a comparu ce jour devant le tribunal de première instance de Southport, qu'il a inculpé de 22 chefs d'accusation de possession et d'exposition à la vente de marchandises de contrefaçon, une infraction passible de 5 ans de prison et ou d'une amende supérieure à 12 millions de nos francs. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Enfin, toujours dans la région, un accord de partenariat signé entre la PIROPS, plateforme d'intervention et de réponse pour le Pacifique de la Croix-Rouge française, et la Croix-Rouge de Fidji. Cette avancée s'inscrit dans le cadre du projet Trois Océans, soutenu par l'Agence française de développement. Les deux organisations vont désormais unir leurs forces pour consolider les capacités locales en premier secours, en logistique et pour une gestion des risques de catastrophes inclusives, c'est-à-dire en tenant compte des problématiques de genre. La Croix-Rouge de Fidji a déjà bénéficié d'un don de matériel et a pu participer à une formation au niveau régional. 18h, passé de 9 minutes, seconde pause, avant de faire un premier bilan du CPAC Challenge qui s'achève demain à 9h.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est 18h10, la fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et avis aux sportifs, il vous reste encore du temps pour faire vos 20 000 pas. La fin du CIPAC Challenge a été repoussée de 24 heures. L'événement se terminera donc demain à 9h. Ce report va permettre aux retardataires de participer au défi photo qui a été initié ce week-end lors du BNC Beach Sport Festival à Lanzvata. Après s'être fait photographier, il faut ensuite modifier la photo, la poster sur les réseaux sociaux et voter pour la plus original, ce qui demande du temps. Une dernière ligne droite avant la fin de cette troisième édition du CIPAC Challenge débutée le 6 octobre dernier et qui est d'ores et déjà un succès, nous a dit Pierre Massenet, le directeur général du groupe CIPAC.
C'est 24 heures de plus, il faut tenir encore. En plus, on est en mode shadow, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les classements. Donc le suspense reste entier pour savoir qui va franchir la ligne d'arrivée en premier demain à 9h. Après un an d'interruption, on a redémarré en nous disant, bon, on se demande si ça va bien reprendre par rapport à tout ce qui s'est passé. Et puis finalement, ça a très très bien pris. La majorité des participants, je pense et j'espère, ont vécu un bon challenge. Et puis ben, voilà, le principe, c'est de se remettre en mouvement, c'est de participer. Même si certains sont très compétitifs et on le comprend, l'objectif, c'est vraiment de prendre des nouvelles habitudes. J'espère que tout le monde vraiment a pris du plaisir parce que c'était l'objectif, a pu retrouver ses collègues, a pu se motiver. Je suis certain qu'on en lancera une quatrième l'année prochaine.
En 2023, pour la dernière édition, plus de 2500 collaborateurs issus de 150 entreprises calédoniennes avaient participé. Cette année, le record a été battu avec 3300 participants répartis dans 250 entreprises, administrations et associations. Les résultats seront connus ces prochains jours et la remise des prix devrait se faire au début du mois de novembre. Le sport et la semaine du cheval, ce sera l'un des temps forts de ce week-end, Jean-François Baudin.
Un événement qui se déroulera sur l'hippodrome Henri Millard, vendredi, samedi et dimanche. Nous en avons parlé de ce rendez-vous dans le MAC des Sports ce midi avec Frédéric Morand, le vice-président de la Fédération française d'équitation, mais aussi de Céline Lasblaise, c'est la présidente du comité régional d'équitation en charge de l'organisation.
On a non seulement les championnats régionaux de CSO, mais on a également des épreuves pour les jeunes chevaux dès l'ouverture de la compétition le vendredi. Mais ensuite, nous avons la joie de recevoir des délégations étrangères pour le RPC du vendredi soir, où nous aurons donc une équipe venue de Polynésie française, du Vanuatu, d'Australie, et une équipe qui représentera la province sud et également la province nord. Et ensuite, on a également un spectacle le samedi soir. Tout est totalement gratuit durant ces trois jours de compétition et d'animation. On invite tout le monde, tous les passionnés ou ceux qui souhaitent découvrir, à venir nous rejoindre.
La semaine du cheval, c'est donc l'un des temps forts pour les passionnés de chevaux sur le territoire et l'événement fait son retour, ce dont se réjouit Frédéric Morand, le vice-président de la Fédération française d'équitation.
Le cheval est présent partout en Nouvelle-Calédonie, donc c'est rare, hein, parce qu'il y a des régions en métropole où il n'y a pas autant de chevaux que chez vous. Et puis c'est aussi le moment de pouvoir les approcher quand on ne les voit pas. Hein, donc le mérite de cette manifestation, c'est d'amener le cheval au public, dans la ville, au cœur de la ville, pour que les gens puissent venir le voir, le toucher, discuter, poser des questions. Il y a des petits stands aussi. Il y a plein d'activités autour des épreuves. Et c'est vraiment important pour tout le monde et sympa. N'oubliez pas que c'est que le cheval, par rapport aux autres sports, il a une valeur éducative très importante parce que l'animal est un miroir. Donc, il reflète aussi vos humeurs. Votre raquette, elle va jamais dire non, elle va jamais dire je vais aller à gauche ou à droite, votre ballon, il va là où vous l'avez envoyé, mais votre cheval, des fois, il peut vous dire non, on va aller d'autre côté. Donc, c'est important dans l'école de la vie et c'est vraiment cette valeur éducative qui est importante dans l'équitation.
Et cette semaine du cheval va réunir les pratiquants et les chevaux de tout le territoire, tout le week-end. Ce sera donc sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa. C'est la 12e édition de ce rendez-vous.
On termine avec des résultats sportifs hors du territoire. On vous l'annonçait ce midi, Leslie Novicki a réalisé une nouvelle performance internationale en Corée du Sud sur la Jeju 100K, une épreuve de l'UTMB World Series. La Calédonienne s'est imposée dans la catégorie 40-44 ans. ans en terminant première féminine et quatrième au scratch sur un parcours de 103 km et 4142 mètres de dénivelé positif réalisé en 13 heures 2 minutes et 58 secondes d'effort. Et puis en golf, lors de la finale de la Coupe du Monde amateur, la Soma Bay Cup en Égypte, les Calédoniens Aldo Rayard et Franck Fina se sont classés quatrième au pied du podium par équipe. Franck Fina se classe également troisième en individuel et deuxième en série. 18h14, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors Pierre, va-t-on chanter sous la pluie ?
La Calédonie sera placée sous vigilance orange pour forte pluie et orage sur les communes de Thio, Yaté et du Mont d'Or. Le reste du territoire sera quant à lui concerné par une vigilance jaune pour le même phénomène. Une autre vigilance jaune pour vent fort sera également en vigueur au sud d'une ligne Thio-Boulou-Paris incluse sur l'île des Pins ainsi que sur l'Ifou et Marais où des rafales sous orage pourront atteindre 35 à 40 nœuds, soit jusqu'à 75 km par heure. Cette nuit, des averses orageuses circuleront encore sur la pointe sud et les îles Loyauté. Ailleurs, le ciel se dégagera peu à peu, mais l'atmosphère restera instable, notamment sur la façade est où des averses fréquentes seront encore possibles. En deuxième partie de nuit, quelques orages isolés pourront se produire, surtout sur la pointe nord. Le vent d'est faiblira progressivement pour atteindre entre 5 et 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur l'est et au Loyauté, et jusqu'à 20 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds sur le sud. Les températures minimales resteront douces, comprises entre 19 et 23 degrés. Demain matin, le nord profitera d'une alternance entre belles éclaircies et passages nuageux accompagnés d'averses locales. Ailleurs, le temps restera pluvieux et instable avec des averses parfois orageuses, en particulier sur le sud-est et les Loyautés. Le vent de nord-est soufflera autour de 10 nœuds, localement jusqu'à 15 nœuds aux pointes de la Grande Terre et aux Loyautés. Sur la pointe nord et par endroits sur l'ouest, il deviendra variable et faible. Voilà pour les prévisions. Prudence donc sur les routes et en bord de mer cette nuit et on garde le parapluie à portée de main pour demain. Pleine mer, côté marée, pleine mer à 19h18 ce soir avec 1m48. La mer se retirera ensuite jusqu'à 1h37, atteignant 0m36, avant de regagner du terrain demain matin pour une nouvelle pleine mer à 7h56 à 1m47.
Et merci beaucoup Pierre, effectivement, il vaut mieux avoir son parapluie à portée de main. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi.